c'est l'auteur ultime des paroles que nous lisons et que nous croyons. Et moi, je suis... par contre, l'âgé, ça, c'est moi. De plus en plus âgé. Non, désolé, ça ne sert à rien, ça. Moi, je suis là pour lire avec vous quelque chose dans sa parole et servir fidèlement, s'il m'aide, servir sa parole. Donc, je propose de lire ensemble le psaume 139. Et en fait, dès les premiers mots qui ont été dits ce matin avec les enfants et dans le chant aussi, que Seigneur, tu me vois. Et le geste, c'était tu me vois, tu me vois. Le psaume 139, donc, qui est construit en quatre paragraphes, de six versets chacun, dont il y a une structure volontaire. Les paragraphes sont magnifiques. Le premier est magnifique. Le deuxième est magnifique. Et il nous fait réfléchir. Le troisième est magnifique. C'est le plus connu peut-être. Le quatrième est magnifique. Et il nous fait beaucoup réfléchir. Donc, premier paragraphe, je lis les six versets et puis après on s'arrête un petit peu sur certains aspects. Donc, au chef de cœur, psaume de David, éternel. Tu me sondes et tu connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une telle science est trop merveilleuse pour moi, trop élevée pour que je puisse la saisir. Tu me sondes, donc éternel c'est Dieu, hein, c'est une tentative de traduction du nom je suis, Yahvé, je suis, Dieu qui dit je suis, voilà, éternel. Tu me sondes, c'est un psaume en je, il y en a beaucoup, mais tout de suite on peut relever que c'est pas seulement je. Parce que le deuxième « me », il est en français. Vous avez vu qu'il est entre parenthèses. Ça veut dire que dans l'original hébreu, ce n'est pas répété. Alors, ça n'empêche pas que ça dit quand même « tu me connais ». Mais peut-être que ça dit aussi que je ne suis qu'une partie de tout ce que tu sondes et tout ce que tu connais. Alors, ton peuple, mais tout. Alors, ici, tout de suite, la première phrase, David confesse. Donc, confesser, parler conformément à ce que Dieu a dit, c'est ça, confesser. David confesse que Dieu le connaît et que Dieu nous connaît et que Dieu connaît tout. Donc, si vous voulez, le titre du psaume pourrait être « Confession » au pluriel. Confesse beaucoup de belles choses. Et est-ce que, donc à mesure, déjà rien que ce premier paragraphe, on peut prendre conscience du bonheur de David d'être connu par Dieu. Alors, est-ce que nous dirions la même chose? Est-ce que chacun nous dit, notre cœur dit, là, si vous voulez, c'est là, le plus honnêtement possible, si on le laisse parler, est-ce qu'il va dire que c'est un bonheur d'être connu de Dieu? Est-ce que par moment, mon cœur est gêné d'être à ce point connu de Dieu? Parce que c'est, on a vu, hein, c'est connu, connu, beaucoup connu. Tout. Et tu me sondes, connu jusqu'au fond. Est-ce que par moment, alors on en a parlé avec Anne-Marie aussi, et mon épouse, elle rapportait que jeune chrétienne, adolescente, des fois ça gêne. Dire, Seigneur, mais tu vois tout. Et tu sais ce que je viens de penser. Donc, est-ce qu'il y a une gêne? Est-ce que c'est un bonheur? Ou est-ce que peut-être l'un ou l'autre, on n'y pense jamais à ça. On ne pense jamais que Dieu nous connaît. Ou presque jamais. Et même quand on le lit, on passe vite. Et on pense beaucoup à moi, je le connais. Et il faut que je le connaisse encore. Ou on pense beaucoup à ce qu'on veut connaître, au progrès que nous voulons faire. Et pas de souci avec ça. Connaître, c'est quelque chose d'immense dans la Bible. Jésus dit carrément que la vie éternelle pour les humains consiste à connaître Dieu. Alors là, vous pouvez dire, tu vois, quand même, c'est important que ce que nous connaissons. Ben oui, et beaucoup plus que nous ne pensons. Pour autant, ceux qui connaissent Dieu, pourquoi le connaissent-ils? Oui, mais qu'est-ce qui fait qu'ils en sont venus à le connaître? Oui. Et donc quelqu'un dit sa parole. Et comment se fait-il que sa parole a pénétré et nous a vraiment rencontrés, que ça a matché, comme on dit? Il nous a aimé le premier, il nous a connu le premier. Et ça sera appuyé dans le paragraphe 3, dans le troisième paragraphe spécialement. Il nous a connus. Donc, que lui nous connaisse est premier. Et que nous le connaissions est second, et nous ne le connaissons qu'en partie. Et c'est écrit, nous ne connaissons qu'en partie. Mais lui, il nous connaît pleinement. Et plus on va avancer dans le psaume, plus on va réaliser que c'est un bonheur d'être connu de lui, c'est un privilège, c'est une sécurité, c'est la garantie. Et Paul le dit, hein, Galates 4, verset 9, il dit, après, bon, il y a tout un contexte, mais juste la phrase, après avoir, il s'adresse aux gens à l'église de cette région, après avoir connu Dieu, ou plutôt, après avoir été connu de Dieu. Voilà. Alors, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Repos. Démarrer la journée. Ou aller, voilà, agir. Non seulement ce que je fais, mais tu pénètres de loin ma pensée. Alors, de loin ici, le message n'est pas Dieu se tient très très loin. Hein, il a dit clairement qu'en son fils, il s'est approché au maximum qu'on peut s'approcher. Mais ça veut dire, c'est la même idée que la parole n'est pas encore sur ma langue. Là, j'ai même pas commencé à penser et déjà tu pénètres tout ce que j'ai pensé. « Tu sais quand je marche et quand je me couche. Alors ici, on va réfléchir à partir d'une donnée technique du texte. Tu sais, ce n'est pas le même, en hébreu, ce n'est pas le même verbe que le premier « tu sais quand je m'assieds », et là, tu sais quand je marche et quand je me couche. Donc de nouveau, activité, repos, jour, nuit, etc. C'est un mot, c'est un verbe, et c'est là, ce deuxième verbe qui se traduit « tu sais », c'est la seule fois qu'il apparaît dans toute la Bible. Donc dans l'Ancien Testament, puisque c'est de l'hébreu. Et il signifie « tu sais », mais il signifie aussi, il peut aussi se traduire « tu détermines ». Ouh, que c'est bon ça. Et là, vous comprenez pourquoi j'ai dit tout à l'heure « être connu de lui, c'est ma sécurité ». Parce que Dieu me connaît, le verbe connaître est extrêmement profond et large dans la Bible. Et profondeur, largeur et hauteur maximum du verbe, c'est quand le sujet c'est Dieu. Quand c'est Dieu qui connaît. Là, on est au maximum, maximum, maximum. Eh bien, le fait que Dieu nous connaisse, te connaisse, connaisse, mieux qu'elle-même, tout ce qui est dans le cœur d'une maman. Je ne le dis pas par hasard ce matin. Que Dieu connaisse ne signifie pas uniquement qu'il sait au niveau cognitif, au niveau de la connaissance mentale, parce qu'on peut savoir beaucoup de choses et être complètement passif au sujet des choses que nous savons. Moi, je sais qu'il y a des nuages qui passent, mais je ne peux rien faire pour qu'ils passent plus vite, moins vite, plus haut, plus bas. Et Dieu, oui. Et donc, on lit ça dans Romains 8, il y a le verset très connu, c'est le 28, je crois, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. » Et puis après, c'est 29, « Ceux qu'il a connus d'avance. » Il les a aussi prédestinés. Eh bien, ce verbe connu, par référence dans Romains, qui est dans le Nouveau Testament, par référence à tout l'Ancien Testament, signifie aussi choisi. Alors, ce que je dis là, c'est pas une donnée de vocabulaire, c'est une donnée de contexte. C'est une donnée spirituelle de tout l'Ancien Testament. Par exemple, quand Dieu dit, pour dire « j'ai choisi Abraham », littéralement, c'est écrit « j'ai connu Abraham ». Voilà. Et donc, ce deuxième « tu sais » m'aide à le prendre en compte, ça. Si vous voulez, c'est un appui, encore une fois, bien prendre en compte que Dieu qui sait, il n'est pas passif, comme s'il ne pouvait pas intervenir. Mais au contraire, c'est lui qui déclenche. Il est le créateur, il est celui qui appelle, il est celui qui donne la foi. Et donc, par exemple, nous n'avons aucun problème à confesser que Dieu sait ce que nous voulons, ce que nous allons vouloir. Il sait ce que nous faisons, ce que nous allons faire. Mais il n'y a pas que ça qui est écrit. Il n'est pas seulement écrit qu'il sait le vouloir et le faire. Mais qu'il crée en nous le vouloir et le faire. Donc être connu de Dieu, tu ne peux pas trouver meilleur logement, meilleur nid, meilleur lieu au sens figuré. Connu de Dieu, ça veut dire, ça implique, c'est lui qui détermine. Alors, ce n'est pas l'idée de fatalisme, etc., parce que la Bible est très claire que Dieu fait entrer en ligne de compte aussi notre volonté, et il nous demande de nous déterminer pour lui. Il dit « croyez », il dit « revenez à moi », etc., il nous demande de nous déterminer pour lui, mais il nous enseigne que premièrement, c'est lui qui détermine. Sinon, vous avez un Dieu qui ne peut faire quelque chose que quand c'est vous qui lui avez demandé. Merci. Et le résultat de connu comme ça, c'est tu m'entoures par derrière et par devant, donc c'est le lieu. Ça veut dire tu m'as mis dans le meilleur lieu. Et tu mets ta main sur moi. Et la main de l'Éternel dans la Bible, c'est pas rien. Elle ouvre la mer, elle... enfin voilà, la main de l'Éternel, la main du Seigneur. Une telle science est trop merveilleuse pour moi, trop élevée pour que je puisse la saisir. Alors lui, il met sa main, lui il me saisit, mais évidemment, moi je ne saisis pas tout. Il y a toujours cette incroyable disproportion. Il est le créateur, je suis la créature. Alors je voudrais souligner rapidement, mais quand même, trop. Ce verset 6, il dit trop. Alors globalement, dans la vie humaine, on dit trop quand c'est pas bon, trop. Hein, voilà, on chauffe un peu, c'est bien, on chauffe trop, c'est pas bon. Mais là c'est un joli trop. Il est beau ce trop. Il est confession justement de cette disproportion. Il est confession de sa grandeur. Voilà, trop merveilleuse pour moi. Donc, ce sont des confessions de David et il est émerveillé. C'est de l'admiration. C'est de l'admiration. Verset 7. Où irai-je loin de ton esprit? Moi, je vous avais dit que le deuxième paragraphe, il nous ferait réfléchir. Moi, je vais dire un mot. Non, je le lis. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille demeurer au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me submergeront. La nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. La nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Alors, la première phrase du verset 7, ben elle vient juste tout de suite après le paragraphe verset 1 à 6. Et verset 1 à 6, c'est de l'admiration, c'est merveilleux. David, il est trop content. Grand bonheur d'être connu de Dieu. Alors pourquoi parler de partir loin de son esprit et de fuir? Je vais mettre mes lunettes pour voir vos yeux. Si. Pourquoi parler de fuir quand on est si content d'être connu de Dieu? Alors, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, que par moments, savoir qu'il voit tout, qu'il comprend tout, qu'il discerne tout dans mon cœur, ça peut faire peur. C'est probablement l'explication, ici aussi. On sait par ailleurs que David était très, très conscient du fait qu'il péchait. Un endroit, il a quand même écrit, « Mes iniquités sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête ». Alors, il se trouve que c'est un psaume messianique qui a une signification bien plus ample, mais quand même, il était très, très conscient et il savait se repentir. Alors, où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Alors, est-ce qu'il faut comprendre ce verset avec Genèse 3, verset 7, 8, je sais où, juste par là, où Adam dit à Dieu, Dieu dit, où es-tu? Et il dit, je me suis caché. Et pourquoi il s'est caché? Parce qu'il venait de tout casser. Voilà. Il avait rompu le... Voilà. Est-ce qu'il faut comprendre ce verset 7 ici avec? Oui. La Bible dit que les yeux de l'Éternel parcourent la terre, que les yeux... ses yeux sont sur les justes, mais aussi que les fautes des hommes et de ses enfants n'échappent pas du tout à son regard. Et on lit dans Hébreux 4 que tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc finalement, peut-être qu'il a eu son moment de grand bonheur. Bon, il est inspiré pour écrire ça et ça nous aide aujourd'hui. Où irais-je ? Alors là, il y a une chose formidable, hein, parce qu'il pose une question, elle est dramatique la question. Elle est vraiment dramatique et profondément honnête. Et alors, ce qui est impressionnant dans ce deuxième paragraphe, c'est que c'est lui qui répond. C'est marqué, hein ? C'est lui qui répond. Si je monte aux cieux, tu y es. Alors peut-être que ce deuxième paragraphe, évidemment, qu'il appuie encore le fait que Dieu sonde et connaît pleinement et que rien ne lui échappe. Et donc David répond, ou plutôt Dieu lui inspire la bonne réponse. Et ça, c'est une belle leçon pour nous. Il faut être honnête devant Dieu. Si j'ai des pensées impures, il faut le lui dire. C'est David qui dit, tant que je me suis tu, je gémissais et mes os, et voilà. Et je t'ai fait connaître mon péché. Alors Dieu, il l'a vu, hein, il l'a vu, il le sait. Mais moi, je lui, voilà, parlez vrai à Dieu. Parlez vrai à Dieu. Et du coup, Dieu, il donne les réponses, et il nous les inspire même. Donc si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, ça c'est beau, c'est poétique, et que j'aille demeurer au-delà de la mer. Là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Ça veut dire que l'honnêteté du cœur qui confesse à Dieu que des fois il voudrait se cacher, il voudrait partir, eh bien, elle aboutit à encore un bénéfice. Précédemment, dans le premier paragraphe, il dit « Tu mets ta main sur moi ». Et ici, nous lisons carrément, verset 10, « Là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. » Alors que ça a commencé avec « Où pourrais-je fuir ?» Alors bien sûr, la leçon c'est « tu peux pas fuir. » Mais il y a toute une démarche là. Alors ce qui est remarquable, c'est que dans la réponse qui est développé là par David, si je monte aux cieux, si je me couche au séjour des morts, si je prends les ailes de l'aurore, que si je vais au-delà de la mer, c'est tout des choses impossibles. C'est que des choses impossibles. Vous avez dit, on peut toujours se suicider, comme ça on est couché dans le séjour des morts, mais bon, je ne pense pas, d'après le contexte, ce n'était pas l'idée. Surtout vu le premier paragraphe et les suivants. C'est impossible, il ne peut pas monter aux cieux, il ne peut pas de lui-même décider du temps où il sera dans le séjour des morts, il ne peut pas prendre les ailes de l'aurore, il ne peut pas aller au-delà des mers. Les Israélites n'étaient pas un peuple de marins, et David n'avait probablement jamais vu la mer, puisque là, lui, il était du sud, et la côte, elle était occupée par les Philistins. Donc, c'est beau ça. Quand bien même, pour fuir, je réussissais tout l'impossible, eh bien, là aussi, c'est toi qui vas me conduire. Vous voyez, la sécurité, tu sais, tu détermines. Tu sais, tu détermines. Si vous avez escamoté de votre doctrine, ce que le Nouveau Testament appelle la prédestination, eh bien, sondez les Écritures. Même les ténèbres. Alors, donc, et si je dis, au moins, alors là, c'est impressionnant. Ça me fait penser à Job. Ou alors dans l'Apocalypse, quand ceux justement, qui ne connaissent pas Dieu, ils disent « Montagne, tombez sur nous et cachez-nous !» Combien ? 25. C'est ça? On essaye de surveiller l'heure. En couple, en couple. Moi, tout seul, je ne sais pas faire. Au fait, et jusqu'où on peut aller, là? Hein? Midi 5. Au midi 10. Au moins les ténèbres me submergeront, littéralement, au moins les ténèbres m'écraseront. Donc là, ça formule que quand bien même mon désir de fuite serait dû au désespoir le plus noir. La nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. C'est impressionnant, hein? Tu me connais, eh bien, j'ai pas plus grande sécurité. Et ne pensons pas que si on est fidèle disciple du Seigneur, on ne connaît pas de désespoir. Hein? Les apôtres en parlent, ils parlent d'angoisse, ils parlent de... Enfin, voilà. Hein? Voilà. La nuit s'illumine comme le jour, les ténèbres comme la lumière. Troisième paragraphe. Le plus connu, en partie, enfin, ou certaines parties. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Désolé, il faut que je vérifie. Entrelacé. C'est pas par hasard qu'on parle de tissu, les tissus du corps. C'est toi qui m'as tenu entrelacé dans le sein de ma mère. Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles. Voilà, on retrouve le vocabulaire du premier paragraphe. Telle science trop merveilleuse pour moi. Tes œuvres sont des merveilles et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait en secret tissé, entrelacé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui étaient fixés pour moi. Tu détermines. Avant qu'aucun d'eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, précieuses. Que la somme en est grande. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Je commence par la fin, par cette dernière phrase. Au paragraphe précédent, il pensait fuir. Et il parlait de la nuit. Et maintenant, je m'éveille et je suis non pas loin de toi, mais avec toi. C'est trop beau. Tu m'as entrelacé dans le sein de ma mère, verset 13, et puis... Verset 15, j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Alors, que Dieu, Créateur, ait tissé ton corps dans le sein de ta maman, tiens, tu le sais bien. Alors, pourquoi c'est écrit que est tissé, aussi tissé dans les profondeurs de la terre? J'ai longtemps pensé, jusqu'à il y a très peu de temps en vérité, que c'était... manière poétique, d'approfondir. Et en fait, c'est une enfant de 12 ans qui a, à la seconde, qui a répondu quand j'ai posé la question pourquoi dans la terre. Il dit parce que Dieu a créé Adam à partir de la terre. Ah, mais oui! Et qu'est-ce que ça me dit? C'est plus important qu'il n'y paraît. Ça me dit que, certes, quand ma mère a été enceinte et puis que toute la fois, tout le tissage et la naissance, c'est Dieu qui m'a créé. Oui, merci. Mais c'est vraiment Dieu qui m'a créé. Évidemment, le non-croyant te dire, ben, un homme et une femme, ils n'ont pas besoin de Dieu pour faire un enfant. Oui, mais si ça marche, c'est encore parce que Dieu a mis en marche les choses comme ça. Il a donné les lois pour que ça fonctionne. C'est très important, surtout pour ceux d'entre nous qui ont souffert avec leurs parents, qui ont été marqués, ou peut-être traumatisés, peut-être plus, peut-être à moitié détruits. Mais même si c'est plus léger, mais difficile avec l'un, avec l'autre, et les deux, c'est hyper important. Je ne suis pas seulement et ultimement le fruit de papa et maman. C'est Dieu qui m'a créé. Il m'a voulu autant qu'il a voulu Adam, lequel Adam, il a littéralement façonné. C'est hyper important. Je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles. Donc ça ne veut pas dire moi je suis le plus beau, hein, voilà. Ça veut dire pourquoi je suis une créature merveilleuse. Parce que je suis sa créature. Il y a reflet de ça. Tes œuvres sont merveilleuses, tes pensées sont merveilleuses, ta science, ta préscience est merveilleuse. Et en reflet de ça, j'ai été créé merveilleusement. Même si mon nez est un peu tordu, ou ça, c'est pas un souci. Pourquoi c'est pas un souci? C'est parce que mon âme reconnaît bien que tes œuvres sont merveilleuses. Et donc, mon corps et mon âme ensemble sont connus de Dieu. L'homme extérieur, l'être extérieur, l'être intérieur, Dieu nous connaît. Voilà, j'aimerais passer du temps sur le verset 16, mais voilà, tes yeux me voyaient, lorsque je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Je ne sais pas, là, j'ai une pensée, mais je ne sais pas si... Sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui étaient fixés avant qu'aucun d'eux n'existe. Si je prends au sérieux cette parole, ou plutôt je ne peux pas la prendre au sérieux et la croire profondément, et en même temps être un militant de l'avortement. Alors bien sûr qu'il y a des situations, il y a des contextes, etc. Et nous ne sommes pas juges. Mais il y a quand même une... Voilà, je dis juste ça. Que tes pensées me semblent précieuses. Le mot se traduit aussi précieuse. Que la somme en est grande. Donc là, ben, on peut sortir la harpe et chanter contre les bienfaits de Dieu. Voilà. Compte les bienfaits de Dieu. Voilà. Dernier paragraphe. Il faudrait inventer une montre où ça ne tourne pas. Alors celui-là, il est difficile. Nous allons le lire. Mais il est magnifique. Parce qu'il dit des choses au sujet de Dieu. Ô Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant. Homme de sang, écartez-vous de moi. Il parle de toi, donc les hommes de sang parlent de toi, toi Dieu. Ils parlent de toi d'une manière infâme. Ils prennent ton nom en vain. Sans respect. Eux, tes adversaires, éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui se soulèvent contre toi. Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont devenus pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. On finira par ces deux versets. Donc voilà, vous aurez compris pourquoi ce quatrième paragraphe est difficile, il fait réfléchir. On a l'impression d'un changement de ton incroyable. Si pour quelqu'un ce n'est pas le moment de se pencher sur ces paroles-là, ne vous y penchez pas. Ouais, c'est pas, en tout cas, que personne ne se laisse rebuter ou scandaliser par ces paroles. Dieu te les fera comprendre en temps voulu. Cependant, je dois en dire quelques mots parce que c'est le texte du psaume. Alors, ô Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant. De la part de David, c'est assez remarquable comme cri. C'est une autre manière de dire Dieu, c'est à toi d'exercer la justice. C'est à toi d'exercer la justice. Et implicitement, ce n'est pas à moi. La demande, ô Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant, mais elle résulte des paroles de Dieu lui-même qui avait dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et la Bible est claire, Dieu fait mourir, il fait vivre, c'est le seul qui est souverain. Et la Bible est claire aussi que le péché mène à la mort et que la méchanceté, la normale, c'est qu'elle soit châtiée par la mort. Alors, je sais que vous suivez Exode, et je suis allé jeter un petit coup d'œil, un petit coup d'oreille sur les dernières semaines sur votre site, et vous avez eu des prédications sur le jugement de Dieu, sur le fait que normalement, on devrait tous être morts. Non seulement physiquement, mais mort, coupé de Dieu, parce que la justice, si Dieu n'exerçait que sa justice, mais il n'y en a pas un qui est digne de se tenir devant lui, et personne n'est digne de la vie éternelle, parce que nous avons tous péché. Alors, plus ou moins gravement, les sanctions seront, semble-t-il, mesurées, mais quand même, et de vie éternelle pour personne. Alors, David le sait bien, ça, enfin, en tout cas, il le sait assez pour... Et alors, ce cri-là, ô Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant, eh bien, ça confesse, là, il fait une confession à Dieu. Et il dit pas les mots, mais Dieu voit, Dieu, il sonde son cœur jusqu'au fond. Et Dieu voit que David trouve que Dieu n'exerce pas sa justice assez vite. C'est ça. Et alors là, des David, il y en a. Et je dois avouer humblement que j'en suis. Pour certaines choses. Pour d'autres, je suis content qu'ils donnent du temps. Voilà. Homme de sang, donc c'est sang au pluriel, ça veut dire meurtrier, si vous voulez. Là, ça veut dire meurtrier. Écartez-vous de moi. Et là, ça dit quelque chose. David, il languit après la justice de Dieu, pas seulement globale, pour toute la planète, pour toutes les générations, pour les grands, mais pour lui-même aussi. Parce qu'il est poursuivi, on le sait, il est poursuivi par Saül, il est persécuté, il est en Israël même, par des Israélites. Et écartez-vous de moi. Et ensuite, il parle de toi d'une manière infâme, ils prennent ton nom en vain, eux, tes adversaires, c'est-à-dire plus encore que le fait qu'ils me persécutent moi, et qu'ils veulent me tuer, en l'occurrence, et ça a duré une dizaine d'années. Hein. Pendant une dizaine d'années, il a dû fuir, se cacher et tout pour ne pas être tué. Plus encore que ça, le vrai problème de David, c'est comment ceux-là parlent de Dieu. Comment ils sont contre lui. Comment ils se posent en adversaire de Dieu. Et éternel, n'aurais-je pas... Alors là, c'est la phrase difficile. N'aurais-je pas... de la haine, les phrases, pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui se soulèvent contre toi, et je les hais d'une parfaite haine. Alors, pas facile, hein? Alors, là, il y a un mot qui aide. Il y a un mot qui aide, c'est le mot dégoût. Le dégoût dans le domaine physique, gastrique, etc. Le dégoût, c'est quelque chose de prodigieusement sain. Pas S-I-N-T, S-I-N. C'est ce qui nous fait vomir. Et si le corps vomit, c'est qu'il fallait pas que ça rentre. D'accord ? Donc nous savons que Jésus dit à une partie de l'une des églises dans l'Apocalypse, je te vomirai de ma bouche. Mais Jésus vomir ? C'est spirituel, hein ? Le même Jésus à une autre église, il complimente une église d'avoir de la haine pour les œuvres, là, pas les personnes, mais pour les œuvres de certains courants spirituels de ce temps-là. Et il dit, ces œuvres-là, moi aussi je les hais. Saviez-vous que Jésus déteste des choses? Est-ce que ça nie, est-ce que ça minore, diminue le fait que Dieu est amour? Ça le confirme. Parce que Dieu est amour d'une manière, non pas d'une manière humainement idéalisée, mais d'une manière qui exclut le mal. Malheureusement, nous, humains, nous avons tout appris, tout ce que nous avons appris est plus ou moins entaché de mal. Et donc, les haines que nous avons vues, elles étaient en grosse majorité entièrement injustes. Nous avons peut-être quasiment jamais rencontré dans les sociétés humaines de haine juste. Mais Dieu n'est pas humain. Et c'est pour ça que ce mot, je les hais d'une parfaite haine. Que vient faire ici le mot parfait dans ce paragraphe? Ben, parce que c'est, en fait, c'est l'Esprit de Dieu qui suscite un dégoût. Savez-vous que personne ne se convertit réellement et ne se repent réellement devant Dieu si l'Esprit Saint ne vient pas le dégoûter de son propre péché? S'il n'y a que les péchés des autres qui te dégoûtent, ben vraiment, malheur à toi! Malheur à toi s'il n'y a que les péchés des autres qui te dégoûtent! Donc, les œuvres, les premières œuvres mauvaises que j'ai haïes, quand Dieu m'a sauvé et que je continue à haïr, ce sont les miennes. Les premières pensées injustes que je hais, ce sont les miennes. Parce qu'il y en a encore. Alors, je suis en route. Dieu nous fait progresser. Alors ici, la question doctrinale, on ne pourra pas l'épuiser ce matin, hein, mais est-ce que... non, je vais la faire simple. Globalement, la Bible nous apprend à haïr le mal, mais pas le méchant. Et Jésus dit, vous avez appris, tu haïras ton ennemi, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, etc. Mais ça, c'est parce qu'il est venu, c'est parce qu'il est là. Est-ce que la Bible dit beaucoup que Dieu haït, déteste oui, plus qu'on ne le pense. Alors, je ne dis pas 100 fois, hein. Mais pas seulement 10 fois non plus, hein. C'est beaucoup dit. Je suis obligé là sur un sujet aussi. Bon, je ne vais pas donner les références. Soit si vous voulez, je les envoie. Il est écrit que Dieu déteste les comportements méchants, les injustices, les crimes, les mensonges, les ruses, la méchanceté. Aussi dans le Nouveau Testament, et qui déteste quand on veut du mal aux frères, il déteste les faux serments, il déteste l'orgueil de son peuple, il déteste la répudiation, ce qui est provoquer un adultère, en l'occurrence. Il est écrit qu'il déteste l'idolâtrie et toutes les idoles qu'on conserve parallèlement à lui, qu'Israël faisait et que l'Église fait aussi. Et il déteste la confiance que nous mettons en de faux dieux. Et il déteste la fausse piété envers lui. Je déteste vos fêtes. Ils font la fête pour l'Éternel, des fêtes prescrites dans la loi. Mais leur cœur est plein d'impureté, de mensonges, d'adultère. Ils détestent la fausse piété, les sacrifices associés au crime ou au vol. Et dans l'Église aussi, Dieu déteste la louange associée à la cupidité. Les cultes de la maison d'Israël, quand ils sont faux. Et puis bon, les œuvres des Nicolaïtes. Bon, jusque-là, je ne pense pas vous avoir causé de grands problèmes, puisque Dieu déteste les choses, les péchés. Est-ce que la Bible dit aussi parfois, pas souvent, que Dieu déteste des personnes? Alors, ceux qui ont beaucoup lu la Bible, vous avez la réponse, hein? Oui, oui, c'est écrit. C'est écrit. Et donc, pour aujourd'hui, je vous dirai juste psaume 5, verset 6. Hein? Tu détestes tous les... Je ne sais plus le mot, ça veut dire tous les pécheurs. Des personnes, oui. Des injustes. Les yeux hautains, la langue, les langues. Donc, c'est des personnes, là. Bon, etc. Et puis, quelquefois, c'est pris au sens relatif. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Si quelqu'un ne hait pas son père, sa mère, il ne peut pas être mon disciple. Donc là, ça ne veut pas dire le détester, mais ça veut dire que la disproportion est telle entre l'amour dû à Christ et celui dû à la famille ou à moi-même. Voilà. Donc, que Dieu déteste des personnes n'est pas redit dans le Nouveau Testament. Voilà. J'espère ne pas avoir causé de problème aux anciens de cette église. Mais bon, de toute façon, ils n'avaient pas prévu de changer la Bible. Donc. Retenons ce mot d'ego. N'est-ce pas un bonheur d'avoir un médecin qui discerne tous tes maux? N'est-ce pas un bonheur d'avoir un médecin qui réagit tout de suite pour que ce qui est mauvais soit expulsé? Voilà. Ben Dieu est ce médecin-là. Alors pour finir, sonde-moi, ô Dieu. Et là, on comprend complètement que tout le paragraphe sur tes ennemis, je les hais, etc., ils te haïssent, tout ça, le dégoût, on comprend que ce n'est pas du tout par idée de supériorité que David dit ça. Ce n'est pas un orgueil, ce n'est pas une suffisance, ce n'est pas « moi je suis clean, eux c'est tous des pourris ». Ce n'est pas ça du tout. Après avoir ainsi parlé, qu'est-ce qu'il fait? Il prie et demande à Dieu de le sonder et de connaître son cœur. Il avait commencé en confessant « tu me sondes et tu me connais », verset 1, et il finit en demandant à ce que Dieu sonde encore et connaisse encore. Pourquoi? Parce que ce qu'il reproche aux autres, il sait très bien qu'il pourrait aussi déraper dedans. Et on sait qu'il l'a fait une fois au moins énorme, une énormité. Donc, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, c'est-à-dire vérifie, vérifie tout. Hein? Éprouve-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et cette prière, elle est tellement utile. Et il est beau de la dire à voix haute, mais je ne pense pas une fois tous les 10 ans. Hein. Pourquoi? Parce que on peut tout à fait être sur une, en partie, dans un domaine particulier, avoir un axe mauvais, une mauvaise piste, et ne pas encore m'en être rendu compte. On l'a tous vécu, ça. Hein? Donc, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. À la fois vie éternelle, mais à la fois aussi chemin éternel avec Jésus qui est le chemin éternel. Voilà le psaume 139. Je crois que j'ai un peu débordé.
Que Dieu nous garde. Merci beaucoup, Jean. Seigneur, bénis chacune des familles de l'Assemblée. Et Seigneur, je prie que tu nous raccompagnes, Seigneur, dans nos foyers.